Bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. La rétrospective de votre actualité de la semaine avec deux gros titres dans l'actualité. Tout d'abord, ce couple de policiers qui a été tué chez lui. Unanimement, on constate qu'une nouvelle étape a été franchie dans cette guerre atomisée, sans ligne de front et donc difficilement contenable. On est passé des attaques de lieux symboliques, Charlie Hebdo, Bataclan, terrasse de café branché, à des individus symboliques. Et donc, en l'absence de ligne de front, ces menaces sont d'autant plus difficiles à déjouer. L'émotion a été immense et signe de la crise de confiance peut-être envers l'autorité suprême. Un policier a refusé de serrer la main au président de la République et à son premier ministre vendredi matin au cours de la cérémonie nationale d'hommage au couple de policiers assassinés. François Hollande est passé, mais Manuel Valls, lui, s'est planté yeux dans les yeux du frondeur à quelques centimètres de son visage. L'homme par la suite a confié aux médias qu'il avait déploré le manque de moyens criants pour la police nationale. L'autre gros titre, c'est bien sûr la manifestation contre la loi travail de mardi dernier, émaillée par des violences commises par des casseurs et qui, le plus simplement du monde, conduit le président de la République à évoquer l'interdiction de manifester pour les prochaines mobilisations prévues la semaine prochaine et la semaine d'après. La CGT répond que c'est à l'État de faire le boulot de sécurisation et par ailleurs, on s'aperçoit que les autorités laisseraient les casseurs prospérer, commettre leurs exactions pour donner une mauvaise image au mouvement dans son ensemble et décrédibiliser les syndicats, à qui profite en effet le crime des casseurs, en particulier ceux qui s'en sont pris à l'hôpital Necker des enfants malades. En tout cas, le bras de fer continue. Le ministre du Travail, Myriam El Khomri, et le patron de la CGT, Philippe Martinez, ont constaté une fois de plus leur désaccord vendredi. Personne ne veut céder, et surtout pas le gouvernement. S'il faut repasser par le 49-3, il y aura le 49-3, dit le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux, au sujet de l'adoption en deuxième lecture de la loi travail. Une bonne nouvelle, la croissance en France pour 2016, ce sera mieux que prévu selon l'INSEE. Cette semaine, elle a annoncé 1,6% de prévision contre 1,5% précédemment. Le chômage devrait baisser de 0,4 points d'ici fin 2016. En revanche, mauvaise nouvelle, on va tous payer plus cher la facture EDF. En Europe, toutes les chancelleries européennes commencent à s'affoler. Ça y est, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne devient possible. Le Brexit, c'est le vote prévu jeudi des citoyens britanniques sur une sortie de l'Union européenne. Non. Et celui-ci, le Brexit, semble tenir la corde. Un signe qui ne trompe pas, les banques centrales d'Europe, des États-Unis et du Japon ont commencé à envisager de faire des photocopies de dollars, injecter des liquidités en dollars sur les marchés, car en cas de Brexit, ça ferait plonger la monnaie britannique, la livre, et les investisseurs, les épargnants trouveraient alors refuge dans une monnaie refuge, donc de référence, le dollar. Voilà pour cette rétrospective, merci de nous avoir choisis.
La météo de votre région sur RVE. RVE, vivez votre région.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. La météo pour ce dimanche, c'est un temps qui, après dissipation des brumes et brouillards matinaux, laissera place à quelques passages nuageux et à quelques belles éclaircies. Les températures ce matin, 11 à 12 degrés. En fin de matinée et en début d'après-midi, on devrait avoir quelques averses et retour à un temps nuageux, alternant avec de belles éclaircies jusqu'en fin de soirée.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Effectivement, hein, c'est pas Tribune Foot aujourd'hui, c'était la dernière il y a 15 jours. La semaine dernière, c'était une émission très variée, très riche, très dense. Aujourd'hui, ça va être tout foot avec nos très nombreux invités que je salue. On va commencer avec notre ami Olivier. Ça va, Olivier ?
Bonjour, ça va.
On voit des matchs intéressants ?
Intéressant, oui. On a eu un début d'Euro un petit peu qui est parti doucement, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs où il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais bon, c'est bien lancé là.
Très bien, allez. Il est donc il supporte les Portugais. Manque d'efficacité sur l'ensemble de ce début de l'Euro pour nos amis portugais. Il va nous en parler, ça va José?
Oui, ça
malgré
va.
Le match nul hier 0-0.
Oui, bon, ils ont pas su élever leur niveau de jeu, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Oui. Pour l'instant, il y a deux équipes qui m'ont un petit peu impressionné. Ils ont l'Espagne et un peu l'Italie.
Je vais saluer Boris aussi, ça va Boris?
Bonjour Philippe,
ouais, qui ouais. se partage entre les chevaux et le ballon rond actuellement.
Grande course aujourd'hui aussi.
Ah ouais. Ça va pour le début de cet euro, ça te plaît?
Je suis mitigé, bon, mais c'est parler. Logique, c'est le premier tour, donc on voit jamais de grands matchs, enfin rarement.
On va
je
parler.
Pense que la compétition démarra en huitième de finale, on attend ça avec impatience.
Très bien, je salue aussi mon ami Francis.
Bonjour Coach. Philippe, ça, bonjour à tous.
Ça va Francis?
Ça va bien.
Alors le début de cet euro?
Début 7 euros un peu chaotique quoi, bon, manque un peu de peps, mais bon.
Non mais c'est bien parce que les avis sont partagés.
Surtout pour l'équipe de France, quoi.
Oui, mais on va en discuter, elle va monter en puissance cette équipe de France.
On l'espère, on aura déjà un nouveau goût ce soir.
Très bien, je veux saluer aussi celui qui était déjà avec moi pour lancer cet euro la semaine dernière, c'est Arnaud. Bonjour Arnaud.
Bonjour Philippe.
Comment ça va? Comment tu trouves le début de 7 euros toi?
Je trouve plaisant, on avait tous peur qu'avec un euro à 24, le niveau soit beaucoup plus faible et qu'on puisse assister à des cartons, alors que pas du tout. Les matchs sont
très commence,
serrés.
Ça commence, ça hein, 3-0 et puis ça commence.
En soi, 3-0, c'est pas forcément une déculottée.
Ouah, c'est pas non plus un score
quand,
serré quand même.
Quand on voit le Chili, ouais, 7-0 au Mexique cette nuit.
Ouais, voilà.
Mais beau début d'Euro. Ouais.
Très bien. On va saluer Juliette et Edouard. Bonjour Juliette, ça va?
Oui, bonjour, ça va.
Ah, ça fait drôle de voir des matchs au Parc des Princes de l'Euro.
Oui, qu'on soit pas là. Mais enfin bon, moi particulièrement, j'ai aimé la Croatie Tchécoslovaquie. C'est le match sinon les autres étaient un peu tristes.
Ah oui, oui, le 2-2 quoi. C'est bien, ça fera plaisir à notre invité tchèque qui est avec donc notre ami Bibi, ça va Bibi?
Salut à tous, bonjour Philippe.
Ouais, alors ce taureau.
Ouais, ça démarre bien, bon, timide, mais on le savait de toute façon, comme disait Boris, je pense que les prochains beaux matchs vont arriver.
Alors je l'ai dit, hein, émission spéciale ce matin consacrée à l'euro, après l'émission riche et variée de la semaine dernière. Je voulais simplement souhaiter une bonne fête à tous les papas que nous sommes. Hein.
Bonne
vous
fête
êtes très
à tous.
Nombreux et vous êtes très nombreux à nous écouter tous les dimanches matins hein, depuis de très nombreuses années. Donc bonne fête à tous les papas. On l'avait fait aussi pour le moment, c'est la tradition. Et puis je voulais avoir une pensée pour celui qui est derrière là. Hein. C'est 30 ans aujourd'hui, voilà, qui nous a quittés et je suis sûr qu'il sera encore d'actualité. Allez, on arrive donc pour l'Euro, l'équipe de France, groupe A, l'équipe de France qui a battu la Roumanie 2-1, l'équipe de France qui a battu l'Albanie 2-0. Messieurs, ça a été difficile, laborieux, mais on y est arrivé. Quels sont vos sentiments sur ces deux succès de l'équipe de France?
Ouf. L'équipe de France joue mal, mais c'est l'empreinte des grandes équipes. C'est quand même une grande équipe parce que même en jouant mal, elle arrive à gagner. Et c'est pas le cas de toutes les équipes et c'est ça qui fait un peu quand même le football. Mais malgré qu'ils jouent mal, ils ont quand même le petit truc qui fait qu'ils gagnent et ils vont au bout de...
Alors pourquoi cette équipe de France joue-t-elle mal? C'est aussi peut-être parce qu'elle tombe derrière, voilà, devant aussi. Des équipes qui jouent très groupées.
Et ça, c'est en fait, ça. Il y a ça bétonne derrière et puis mais peut-être que ils ont la pression vu que ça se passe en France, hein, l'Euro se passe en France. Peut-être que les joueurs ont pas encore évacué la pression et comme disait Fifi et Boris, peut-être que les matchs vont commencer à se débrider à partir des huitièmes de finale et là on verra peut-être des super matchs et du beau jeu.
Enfin, moi je trouve pas qu'elle joue mal, elle est en rodage l'équipe
on
de France.
Non mais
on savait
très beau.
Non
pas,
mais déjà avec la ligne
voilà, beau,
non
même.
Mais la ligne d'arrière quand on regarde l'ensemble des matchs de toute façon il n'y a pas eu de beau match hein. À part comme disait Juliette, Croatie, Tchéquie, l'Espagne, voilà, mais personne n'a impressionné. L'équipe de France est en rodage encore. Moi, je savais que les trois premiers matchs.
Que c'est le premier tour et personne veut perdre. Tout le monde veut au moins prendre un point et puis et c'est pour ça que le jeu il n'est pas
déchet technique.
Oui, il y a du déchet technique.
C'est ça qui est quand même.
Et le jeu n'est pas ouvert comme des matchs qu'on voit en Coupe d'Europe ou en Championnat de France ou autre. C'est ouvert. Là, on voit que ça bloque au milieu et puis on a très peu d'occasions. Et c'est pour nous devant notre écran, on voit que
quand on voit les
joueurs
aussi,
jouent avec le frein à main.
La Roumanie, l'Albanie, tout le monde
c'est
à l'arrière.
Qui joue derrière. Mais ça, on le voit aussi.
Voilà. Il ne faut pas oublier non plus que ces joueurs-là viennent d'un championnat de 40, 60 matchs et que quelque part, ils sont encore.
Toutes les équipes.
Oui, bien sûr. Raison de plus.
Il n'y a pas de joueurs en plus.
Raison de plus. C'est du 0-1, c'est du 0-0.
Ce que tu dis, Juliette, c'est tout à fait vrai. Toutes les équipes, mais prends tous les joueurs des équipes qui ont fait ces 60 matchs par saison, ils sont minables. Hein.
Oui, c'est vrai.
Je veux pas parler de Ronaldo parce que c'est celui qui est le meilleur joueur du monde. Et il est pas bon parce qu'aujourd'hui il est cuit.
Ben on attend
voilà,
tout
simplement.
De lui
aussi. Donc les Griezmann qu'on adore, les joueurs comme ça, c'est les Pogba. Ils ont fait une saison telle qu'aujourd'hui ils arrivent un peu émoussés. Donc je pense que ça aurait été bon de ne pas les faire jouer ce soir.
Là on prend Ronaldo et le Portugal.
Par exemple,
oui, c'est pareil. Oui mais hier ils sont quand même. J'ai écouté là combien 40. On a regardé le match. Ils ont eu 40 occasions. 41 occasions. Alors c'est sûr que la finalité est pas là. Bon, mais on peut pas dire quand même que ça joue très mal quoi. Faut arrêter hein.
Alors, disons que la France, on aimerait bien avoir.
Ouais, techniquement.
On aimerait bien avoir 40 occasions.
Oui, c'est en rodage. Oui, tout à fait. C'est du rodage. Voilà.
Il y a d'autres équipes qui ont du mal à marquer, mais qui ont un jeu quand même plus.
Le plus important, c'est de marquer.
Ouais,
hein.
Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est la vitesse d'exécution des Français.
Oui,
sont les plus lents qu'on ait vus.
Voilà, franchement, ça c'est un
quand
argument.
On regarde Pologne,
l'Espagne, c'est sûr.
Pologne-Allemagne, ça jouait à 200 à l'heure tout le match. Ouais. Chez nous, c'est la babale au milieu du terrain.
Mais est-ce que Pologne-Allemagne, c'est un bon match pour un spectateur? Olivier y était, c'était pas terrible.
C'est un match
c'est bien
très
pour
tactique.
Un entraîneur, c'est un bon match.
Il n'y a pas de temps mort.
Oui, pour un entraîneur, c'est un bon match
physique.
Mais bon, sur un spectateur, c'est
revenir aux
deux occasions.
Ouais, mais bon, les joueurs, ils ont aussi 40 ou 50 ou 60 matchs.
Oui, mais tous pratiquement.
C'est ça qui me fait peur pour l'équipe de France, c'est le manque de rythme et le manque d'impact du milieu de terrain pour l'instant.
Oui, voilà. Arnaud.
Alors voilà, l'analyse, elle est plus sur l'attaque ou sur le milieu de terrain. Faut rappeler quand même qu'avant l'Euro, on était tous inquiets de la défense et on se rend compte que finalement, Rami Koscielny, même si c'est pas en permanence serein, c'est pour le moment solide. Pour le moment.
Ah, mais c'est solide, mais. On parle des Albanais.
C'est là que je suis d'accord.
Et je veux dire, Rami, le premier match, bon, le pauvre, il est là, il est à défaut. Donc, faut bien faire avec. Je suis Deschamps, il n'a pas le choix. Ouais. Donc, faut faire avec. Alors, mais il met pas un pied devant l'autre sur le premier match. Et là, il balbutie. Je veux dire, c'est contre les Albanais. Je veux dire, c'est. Moi, je suis pas. Moi, le point faible de cette équipe de France, elle est sur la charnière centrale. Hein.
Sans oublier Patrice Evra. Je suis désolé, Patrice Evra, face aux Roumains qui est trois fois sur les fesses.
Ouais. Ouais, contre l'Albanie, il a un impact ce garçon, on pourra le critiquer. Il a une pulsion, il a pris tous les ballons de la tête sur son côté, il a beaucoup de déchets techniques. Je pense que, par contre, on peut pas lui reprocher, c'est de mouiller le maillot et d'avoir la grinta. Il en manque à certains, mais lui au moins il a ça. Parce qu'il a pris quelques têtes hein, contre l'Albanie, je sais pas si vous avez vu sur le côté, le gars il a pas vu le jour. Hein.
C'est vrai qu'on peut pas lui reprocher de pas se battre.
Rami, me semble quand même qu'il a fait une passe qui a un but.
Oui, alors, voilà, on va lui accorder
mais
ça.
Mais oui,
voilà.
Mais ça compte. Ce sont des actions. Quand on loupe 10 et qu'il en fasse 1, mais ça va.
Sur le poteau des Albanais, les abonnés absents sont complets. Hein, complet.
Parce qu'on verra ce soir quelle équipe Didier Deschamps va aligner.
Bah, Cabaye qui arrive.
Je pense qu'il faudrait aligner ceux qui ont pas joué, hein, très honnêtement.
Bah, Cabaye, oui,
parce que les mecs, ils auront un peu de niaque pour essayer de montrer qu'ils sont capables de jouer.
Ça soit pour être bien. Comme j'allais.
Non, j'allais, je jouera pas.
Bah oui, mais c'est dommage. Parce que Sagna, il est fatigué. Faut être très clair.
Ouais.
Contrairement à l'Albanie et la Roumanie, pense que ce soir le jeu va s'ouvrir. La Suisse est une équipe qui joue au ballon.
Oui,
voilà. Je pense que ça, c'est vrai que ça va être aussi une des particularités. On va mieux s'exprimer devant des équipes.
Ouais, mais il est là le problème. Bon, quand on joue avec des équipes qui ils sont à 10 à l'arrière,
comme les matchs de Coupe de France, quand les petites équipes.
Mais voilà, c'est ça.
Les équipes jouent jamais bien.
Quand on voit des petites équipes comme l'Islande, ils sont pas loin de se qualifier.
Je vois pas beaucoup de petites équipes, par contre je vois pas de grandes équipes.
Mais c'est ça.
Oui, peut-être qu'elles sont programmées pour monter en puissance.
D'accord.
C'est un euro, c'est le premier euro. C'est comme un mondial.
La Croatie va faire mal, je pense.
On verra bien.
Chaque fois on dit ça, de toute façon, toutes les compétitions, c'est vrai qu'ils sont armés.
Olivier, l'équipe de France.
L'équipe de France, non. Espérons qu'on monte en puissance. Effectivement, le petit point faible. Au niveau de la défense, effectivement, on peut pas être. Enfin, pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt parce qu'on n'a pas eu.
Faut pas qu'il y ait de blessure, c'est sûr.
Voilà, faut pas qu'il y ait de blessure, mais on n'a pas eu de grosse opposition non plus. Les Albanais, les Roumains. Bon, on a.
Ils jouent derrière.
Donc, on va voir. Contre la Suisse, déjà, ça sera déjà un premier test. Mm-hmm. Et puis après, espérons, au huitième de finale, effectivement, on va vraiment lancer notre Euro à ce moment-là, quoi. Mm-hmm. On verra.
Très bien. Donc, on va quand même rappeler aussi que la Roumanie et la Suisse ont fait match nul un partout. Et puis, qu'il y a eu la victoire de la Suisse devant l'Albanie 1-0. Donc, ça fait la France 6 points, la Suisse 4 points, la Roumanie 3e 1 point, 4e l'Albanie 0 point. Il reste deux matchs. Ça se déroulera donc ce soir. Suisse-France et Roumanie-Albanie. Alors, ça va se passer comment? Qui va se qualifier, messieurs? France-Suisse, après?
Alors moi je pense que les Roumains sont au-dessus des Albanais.
Je pense que la Roumanie va taper l'Albanie.
Et avec la règle des meilleurs troisièmes, il y a même de très fortes chances de retrouver l'Albanie en la Roumanie pardon en huitième de finale avec 4 points. C'est pratiquement après, c'est fait pour points, être dans le meilleur troisième.
Oui, l'Albanie pour l'instant ils ont 0 points.
0 points.
Donc il faut qu'ils gagnent. C'est vrai que s'ils gagnent 3 points, ça
pense
peut.
Parce que la Roumanie.
Ouais. C'est vrai qu'ils ont eu des occasions. Hein. On était au Stade de France.
S'ils mettent le premier but, je sais pas quelle est la physionomie du match.
Je souhaite juste revenir.
Et en début de deuxième mi-temps, ils ont posé des petits problèmes pendant un petit moment quand même. Hein.
Oui, chaque mi-temps, les premiers quarts d'heure a été laborieux pour les Français.
Pour revenir une petite seconde sur l'équipe de France, ça fait 10 minutes qu'on est en émission. Je suis surpris qu'on n'ait toujours pas utilisé le mot paillette. Dimitri Payet qui dynamise le jeu français depuis le début de l'Euro.
Ouais, on allait en parler parce que c'est le sauveur de l'équipe de France.
Mais écoutez,
c'est le but de l'Euro pour l'instant.
Vous parlez trop de Payet, mais parlez aussi de celui qui lui a donné le ballon.
Ouais.
Mais oui.
C'est droit
aussi, vous êtes bloqué sur Payet. Payet, il a eu le ballon, oui, parce que c'est un gars qui tire bien les coups francs.
Disons que pour l'instant, c'est celui qui sort un petit peu du lot par rapport aux autres.
Oui. Il sort du lot, mais c'est lui qui lui a donné le ballon. Même le ballon est sorti de loin.
On ne parle pas suffisamment.
Mais non.
Mais même sans marquer les buts, quand même, les actions viennent de lui.
Il arrive à marquer le but parce que c'est un bon tireur. Même les coups francs, il les tire bien.
Oui, devant Cameroun, on l'a vu.
Mais il fallait lui donner le ballon dans le couloir où il était.
Il a fait un premier match plein, bon, deuxième un petit peu moins. Parce que c'était l'adversaire qui était en face, mais faut reconnaître quand même que pour l'instant c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de France.
Et bizarrement, il n'a pas glissé une seule fois contre l'Albanie. Tous les joueurs, on a vu tous les joueurs par terre, sauf Dimitri Payet.
Il marque des buts, il percute, il arrive à libérer des espaces et à donner la balle à mettre des joueurs en position de marquer.
Tiens, justement, l'état des terrains, là,
c'est l'image de notre championnat, je trouve ça honteux de voir qu'à part le Parc des Princes, toutes les pelouses sont carrément honteuses. Lille, c'est honteux, le Stade de France, c'est honteux, Marseille, c'est honteux, je trouve ça...
Le problème, il a été exposé clairement, on prend le terrain de Toulouse. Trois semaines avant, ils ont fait le concert d'ACDC.
Ils ont fait un concert là-dessus.
On reçoit l'Euro... l'Euro en France.
Deschamps l'a dit aussi. Marseille aussi.
Trois semaines avant, les gens on loue nos stades. Enfin, les villes louent les stades.
Non, mais le problème, c'est l'argent. Hein.
Oui, mais.
Et vous avez un président PSG qui est café d'argent et qui change sa pelouse. Ça a coûté 300 000 euros.
Il y a le président, mais le jardinier, vous passez pas sur le.
Payé 20 000 euros par
mois. Mais peu importe combien il est payé, laisse personne monter sur le terrain.
PSG a les moyens de s'offrir un jardinier payé 20 000 euros par mois. Il n'y a aucun club en France qui est capable de faire ça.
Mais il faut que le jardinier aussi fasse respecter son terrain, son travail. C'est surtout ça.
Je veux dire, même si tu montes pas sur la pelouse de Marseille, elle en est pas moins mal dégueulasse, quoi.
Si on monte dessus, puisqu'il y a des soirées.
C'est une catastrophe.
Ouais, mais il y a plus d'argent. Les pelouses, ça coûte de l'argent. Moi, je connais bien le sujet parce que j'ai visité le stade Bollaert à la fin des travaux. Et je peux vous dire qu'on a vu le jardinier, on a vu les lampes surtout qui éclairent la pelouse. C'est impressionnant la puissance électrique mise en jeu avec des lampes qui sont à 2 mètres du sol et qui font glisser tout doucement. Mais quand on voit la consommation électrique et le coût que ça a, c'est impressionnant. Les écolos, là, ils deviendront.
Alors moi ce que je comprends pas c'est hier le LOSC qui annonce changer sa pelouse pour mettre une pelouse hybride comme au Parc des Princes et ils annoncent faire ça le lendemain de l'Euro. Pourquoi ne pas faire ça un mois et demi plus tôt pour avoir une bonne pelouse pour toutes les grandes équipes européennes qui vont venir jouer au stade Pierre-Mauroy?
Je vous dirais même que le jardinier, quelquefois, il se lève la nuit pour voir s'il n'y a pas des tops qui circulent sur le terrain.
Moi, 20 000 euros par mois, je me lève la nuit.
Moi aussi.
Mais il fait,
je dors même sur le terrain.
Il fait son travail aussi.
En plus, les pelouses, c'est entretenu artificiellement, un coup d'engrais, un coup de matériel. C'est impressionnant. Hein. C'est pas celle qu'on a dans le jardin, il faut être clair. Donc, ça coûte de l'argent.
Non, mais c'est bon. Honnêtement, l'image qu'on donne. C'est presque pas digne d'organiser l'euro, quoi. Je veux dire, c'est dommage, hein, parce qu'on a des beaux stades, des belles enceintes, il n'y a rien à dire à ce niveau-là.
Et en plus, la télé qui est à Marseille n'a pas arrêté de faire des plans vus d'en haut, le truc le plus moche possible.
Pourtant, quel stade, le stade de l'OM.
L'ambiance sur cet euro, sympa. On est allé avec Olivier au Stade de France à plusieurs reprises. Sympa dans les tribunes. Bon, il y a eu ces gros problèmes à Marseille de débordement, effectivement.
Même un peu partout.
C'est l'arbre qui cache la forêt, quoi.
Vive les Irlandais. L'Irlande du Nord et l'Irlande.
La Suède, c'était aussi.
L'ambiance est impressionnante. Les deux équipes, je trouve ça magnifique.
C'est toujours pareil, quoi, en fait. les pays nordiques. Bon, il n'y a pas le Danemark cette année, mais voilà, quoi, heureusement qu'on a ces pays-là pour mettre de l'ambiance et d'avoir un esprit bon enfant. Et puis on retrouve toujours les mêmes casseurs. Hein, les supporters des pays de l'Est qu'on
combat là,
mais c'est révélateur de la politique aujourd'hui et de ce qui se passe en Europe. Ouais. Ouais. Donc il n'y a pas malheureusement beaucoup de surprises. Tout est prémédité et c'est dommage que la majorité des pays qui sont venus ici, c'est pour faire la fête.
Oui, il y a la fête quand même.
D'ailleurs, on remarquera, il y a des supporters albanais qui sont venus en masse. Enfin, c'est exceptionnel, les petits pays.
Oui.
Ça fait plaisir.
Ils sont qui s'est déplacé en masse.
8% de la population islandaise qui était au stade. 8%. C'est fabuleux.
Et l'Angleterre, Pays de Galles, qui s'est tenu à Lens, il n'y a aucun problème. Au contraire, ils sont tous. Bah oui. Ils ont tous vidé les fûts de bière.
Bah, de toute façon, les Anglais, ils ont géré ça depuis des années. Hein. C'est pour ça que dans les affrontements qu'il y a eu avec la Russie, on disait les Anglais, non, ils ont été agressés. Hein. Eux, le hooliganisme, ils connaissent
depuis.
Ils
sont venus pour ça, hein. Ils le reconnaissent. Hein.
Très bien, allez, on arrive au groupe B, donc où justement le Pays de Galles a battu la Slovaquie 2-1, nul entre l'Angleterre et la Russie 1-1. La Russie qui est battue aussi par la Slovaquie 2-1, et puis l'Angleterre qui a battu justement le Pays de Galles 2-1. Les Anglais donc pratiquement qualifiés, 4 points, devant le Pays de Galles 3 points, et la Slovaquie est également 3ème à 3 points, 4ème la Russie 1 point. Il y aura donc, ça sera donc demain à 21h, Slovaquie-Angleterre et Russie-Pays de Galles. Alors que peut-on dire d'abord des Anglais qui rate quand même pas mal d'occasions. On l'a vu contre les Russes. Hein. C'est dommage, quoi.
Oui, ils sont en rodage.
Ah, ils ont raté des occasions, quand même.
Ils sont en rodage, comme les autres équipes. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai l'impression que cette équipe d'Angleterre va faire un bel euro.
C'est spectaculaire.
Ils ont un bon compromis.
Je pense que la victoire contre le Pays de Galles va lancer leur euro, surtout la deuxième mi-temps. Hudson qui fait rentrer Vardy et Sturridge à la mi-temps. Les deux personnes qui offrent la victoire, je pense que l'euro est parti aujourd'hui.
Ouais, pour l'Angleterre. Ouais.
Ils ont raté beaucoup d'occasions contre les Russes, hein, qui sont allés arracher un nul sur le fil. Mais voilà, donc c'est une équipe qu'il va falloir suivre et surveiller, José.
Les Anglais, certes, ils ratent beaucoup d'actions, mais ils ont le mérite de se les créer, surtout.
Absolument.
Donc, une belle petite génération, les Anglais. Bon, c'est vrai que par le passé, ils ont eu aussi de grosses générations, ils n'ont jamais rien gagné, donc pourquoi pas.
Le Pays de Galles a quand même résisté pratiquement jusqu'au bout. Hein, après le coup franc de Gareth Bale, les Anglais ont quand même eu du mal. Il a fallu attendre vraiment les toutes dernières minutes pour que l'Angleterre s'impose 2-1.
Alors sur le coup franc de Gareth Bale, moi j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de l'erreur de main ou pas de Edgeworth? Est-ce que pour vous c'est une erreur ou ça aurait pu être évité?
Disons que c'est une erreur, ça nous rappelle l'Arconada en 1984, coup franc de Platini au Parc des Princes. Disons, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est un peu comparable quand même.
Les conséquences sont les mêmes.
Ils ont perdu.
Bien sûr. Ils sont en finale.
Non, ils ont gagné.
Ils ont gagné. Non, mais je veux dire, le Pays de Galles a perdu. Le gardien du Pays de Galles a fait la boulette.
C'est le gardien de l'Angleterre qui a fait la boulette.
Pardon.
Tu
n'as pas vu le même match.
Très bien. Donc les Russes, derniers.
Oui.
C'est à l'image un peu de ces pays de l'Est qui sont.
Ces pays de l'Est, depuis des années, recrutent des Brésiliens, un peu de Français, un peu de partout, et ils se retrouvent très, très mauvais dans leur équipe nationale. Hein. C'est un peu à l'image de l'équipe de France.
Très très peur de voir la Coupe du Monde en 2 ans en Russie, que ce soit au niveau de jeu pour les Russes qui est plutôt anecdotique, mais voir les événements qu'il y a eu avec les Russes.
Il n'y aura aucun problème.
Malheureusement,
il n'y aura aucun problème.
Ça va s'arranger au niveau de la diplomatie, ça ne peut pas faire autrement.
On rigole pas.
Juste un petit mot, Francis, parce qu'après, vous allez partir à la pause. Un petit mot de basket.
La qualification de l'équipe féminine pour les Jeux Olympiques hier, battant l'Argentine de près de 40 points, ce qui est une bonne chose. Maintenant, on attend la même chose des garçons pendant les vacances. Hein. Ce sera un peu plus délicat parce qu'il va manquer quelques Américains, enfin quelques Français qui jouent aux États-Unis. Mais le président de la Fédé qu'on a vu il y a un mois a l'air confiant.
Très bien. Et puis, Villarbanne
champion,
quand même,
c'est pas mal.
En 5 matchs. Hein.
Oui, c'est bien. Hein, c'est bien pour Tony Parker, c'est son équipe tout de même.
Tiens, on avait vu Thierry Henry dans les tribunes, pour faire un petit peu le lien avec le foot. Allez, la pub, la musique, et puis ensuite, on continue sur 7 euros. On revient sur le groupe C, notamment le groupe D.
meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Vous souhaitez dynamiser votre activité, augmenter votre chiffre d'affaires, valoriser votre entreprise ? Alors, pas d'hésitation. Rejoignez notre Business Ville au cœur du parc du Bel Air, La Forêt, rue Bernard Bataille à Gazeran-Rambouillet. Nous vous proposons la location de bureaux et de locaux d'activité neufs répondant aux dernières normes. Un emplacement incontournable pour accueillir votre entreprise au cœur de la Business Ville et des loyers attractifs. Contactez Batiloc au 02 76 515 515.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
La Cime Verte et la Gage à Vieille Église vous proposent un travail soigné et en toute sécurité. Vous souhaitez changer l'image et la luminosité de votre jardin ? La Cime Verte vous conseillera sur l'élagage et les soins à apporter à vos arbres. Comment les tailler ? Quelles sont les périodes à respecter selon les essences ? Et répondra ainsi à toutes vos questions. La Cime Verte, votre professionnel de l'élagage. Ferme de la Quaqueterie à Vieille Église, proche de Rambouillet. 01 30 46 23 36 ou www.lacimeverte.com.
Et maintenant ? Une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE.
Elle s'appelait Conception. Et avait besoin d'affection. Elle avait un chum en prison. S'appelait Ramon et conduisait un gros camion. Il rôdait autour de la maison en fumant un drôle de gazon. Tout en fumant et en crunchant des petits piments, il lui ôta son caleçon pour lui offrir son corazon. Elle s'appelait Conception et avait besoin d'affection.
son couteau. Pistolio, casse à son goulot. À la main, trouve son moins le fun. Filieu d'une grande révolution, 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 révolution. Les deux tombèrent du balcon. Et se cassèrent la colonne. Elle s'appelle Conception.
Allez, on va maintenant aborder le groupe C. Juste avant, Arnaud, une stat plutôt rassurante. Hein. C'est vrai que notre équipe de France, elle gagne au mental, elle gagne avec ses tripes. C'est plutôt bon signe. Et quand elle commence par deux victoires, ça va souvent au bout.
Alors, je ne sais pas si on peut se raccrocher à ça, mais effectivement, dans l'histoire de l'Euro, la seule fois où l'équipe de France a gagné ses deux premiers matchs, c'était en 84 et en 2000. Je pense que vous connaissez tous le résultat final.
Oui, c'était le Danemark 1-0 et la Belgique 5-0 ensuite. Hein. On avait cartonné en 84.
Je me rappelle aussi en 84 à Marseille, une demi-finale contre le Portugal.
Ah oui, 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 oui. Match légendaire. 3-2 après prolongation.
Ghana,
oui, oui, oui.
Où la pelouse était meilleure.
Ouais. Rendez-vous compte, Platini avait mis 9 buts. Je ne sais même pas si la France, à la fin de l'Euro, on aura marqué 9.
Oui, et tu te rappelles contre les Yougoslaves?
Oui,
un du droit, un buts. Du gauche et un à tête.
Exact.
Ah, enfin, on en a déjà marqué. Ça, hein. On en a déjà marqué 3 des buts. Hein.
Voilà. Allez, non. Groupe C. Donc, Pologne qui a battu l'Irlande du Nord 1-0. Allemagne qui a battu l'Ukraine 2-0. Ukraine, Irlande du Nord. Donc, victoire de l'Irlande du Nord 2-0. Et puis, match nul entre l'Allemagne et la Pologne 0-0. L'Allemagne est en tête avec 4 points. Devant la Pologne, 4 points. 3e, Irlande du Nord, 3 points. Et 4e, Ukraine, 0 points. Il y aura donc le 21 juin, donc mardi à 18h, Ukraine, Pologne et Irlande du Nord, Allemagne. Olivier, tu étais au stade de France pour Pologne, Allemagne. Ton sentiment ?
C'était
0-0 moyen, bon 0-0, comment c'était? Parce que c'est vrai que tactiquement, un entraîneur peut dire la Pologne a bien joué, mais sur le plan du spectacle, on est quand même resté sur notre faim, faut le dire.
Honnêtement, je pense que si j'avais été devant ma télé, je pense que je me serais endormi.
Surtout la première mi-temps, hein. La deuxième était un peu, tout petit peu plus intéressante.
C'était, ça se contournait au milieu, c'était, il n'y a pas eu très très peu d'occasions, c'était serré, on sentait que c'était tactique. Les deux équipes, j'ai l'impression, n'ont pas joué pour gagner, mais surtout pour ne pas perdre. Et. Bon, je me trompe peut-être, mais d'un commun accord, je pense que le dernier quart d'heure, on partage les points, un point chacun, et tout le monde est content.
Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe allemande qui a battu l'Ukraine 2-0? Bon, elle n'a pas été trop bousculée, sauf un petit quart d'heure en fin de première mi-temps, mais dans l'ensemble, quand même, là, elle a la possession de balle, elle n'a pas d'occasion contre les Polonais. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est programmée pour le deuxième tour?
Les Allemands,
ils sont toujours à la fin.
Un championnat d'Europe ou une Coupe du Monde sans l'Allemagne.
Ils sont toujours là.
Ils sont toujours dans le carré.
Ils ont le mental.
Ils sont faits pour ça. Ils commencent, ils gèrent leur match, ils gèrent leur. Voilà.
Mais ils ont tout de même eu chaud, moi, je dis, contre les Polonais.
Ah, bah oui, il y a une grosse occasion, là. La Pologne peut être une équipe trouble-fête, justement. Ça peut être une de ces grosses surprises, comme le Danemark, ou comme les Grecs, il y a quelques années.
Ouais, ça peut être la surprise.
Je pense que dans ce groupe-là, Allemagne-Pologne, je crois.
Oui, d'accord. Non, mais sur l'ensemble de la compétition.
Je pense que les Polonais, ils ont un bon milieu, une défense assez solide. Je pense qu'ils peuvent aller au moins jusqu'en demi-finale.
Oui, je partage le même avis. Ouais, c'est vrai que c'est bon, c'est une bonne petite équipe. Ils peuvent créer la surprise.
Il y a Laurent Vincent qui a croqué deux buts tout de même. Hein. Seul au point de pénalty.
Ça, c'est la plus grosse occasion, ça.
Je l'ai pas trouvé fringant, Lewandowski. Un peu comme toutes les stars qu'on dit stars, Ronaldo, Ibra et Lewandowski.
Ibra, inexistant.
On l'a vu avec Olivier contre l'Irlande, effectivement. Il a deux ballons, une occasion et un autre où il emmène.
Mais bon, c'est vrai que, comme disait Juliette tout à l'heure, ils font 50 et 60 matchs par an, voire plus, et ils arrivent effectifs.
Et puis non,
ils sont pire, quoi. Et puis Bra, il a pas la qualité de l'effectif du PSG autour de lui.
Voilà, je pense que c'est ça. Il a un système de jeu.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu comme Ronaldo au Portugal, il a pas la même qualité.
Enfin, Ronaldo, il est quand même pas si mal entouré que ça. Bon.
Et puis je dirais aussi qu'ils sont pressés de partir en vacances.
Enfin, c'est quand même. Non, mais c'est quand même.
J'espère qu'ils vont
gagner. Voilà, c'est un championnat. Je veux dire que c'est le rêve de tout le monde. Enfin, voilà, c'est un championnat d'Europe. Les gars, ils viennent. Il faut quand même, ils viennent pour gagner. C'est pas partir en vacances.
Il vient avec l'effectif qu'il a. Il vient pas pour gagner.
Sinon, autant demander à leur entraîneur qu'il les libère avant l'Euro s'ils veulent pas jouer l'Euro.
Ils ont pas dit qu'ils voulaient pas jouer l'Euro. Mais bon, ces gens-là ont besoin de vacances parce que d'ici fin juillet, il faut déjà qu'ils reviennent sur le terrain.
Même dans ton boulot.
C'est ce que j'allais dire. C'est
la dernière journée avant que tu partes, ton patron te demande de faire un effort, tu le fais. Bon, bah là, c'est pareil.
Ah, ben ça dépend.
Si tu dis t'as 50 000 euros à la clé.
Ah, voilà, c'est sûr.
Pas pour l'argent.
Non, mais là, il y a les couleurs des pays. Enfin, voilà, c'est une image.
C'est 300 000 euros.
Ouais. Oui, enfin voilà.
Par joueur
pour la. Pour revenir sur ce groupe C, je pense qu'il faudrait aussi s'intéresser à une chose, c'est le troisième de ce groupe-là. Il y a de, je crois que c'est 80% de chances que le troisième de ce groupe prenne l'équipe de France en huitième de finale.
Irlande du Nord, je pense. Enfin, l'équipe de France, si on gagne ce soir. Parce que si on perd, on est deuxième.
La Suède, si c'est pas le troisième du groupe C, ça sera le troisième du groupe D qu'on va voir après. Je crois que c'est la République tchèque, donc France-République tchèque en huitième de finale. Je pense que ça promet, ouais.
Ça serait sympa. Bon, on va voir. En tout cas, il y a aussi peut-être l'Irlande du Nord, on verra ça.
Faut finir
en tout cas.
Premier déjà.
Ouais, c'est ça.
Je pense que ça devrait le faire. Un bon petit match l'un partout, et puis voilà. Allez, le groupe D. Donc Arnaud est au match, donc victoire de la Croatie devant la Turquie 1-0, l'Espagne qui a battu la République tchèque 1-0, République tchèque Croatie 2-2, et puis donc l'Espagne Turquie 3-0. Quelle prestation espagnole, c'est ce qu'on a vu de mieux pour l'instant. Donc au niveau du jeu, hein, même si on peut penser que la Turquie c'était un peu plus faible.
C'est ce que je disais en
cette
introduction.
Cette fluidité du foot espagnol retrouvée, hein, c'est bien.
Vrai, c'est une équipe qu'on avait un peu enterrée. Pas un peu
attention,
enterré, mais
attention.
Ouais. Ouais, un peu comme l'Italie, et ils sont toujours là. L'Italie est toujours là dans son groupe. Ils sont bien placés, ça y est, ils sont en huitième. Et l'Espagne, c'est pareil, hein, ils ont commencé doucement et là, ils vont commencer à monter crescendo comme toutes les grosses cylindrées, je pense. Hein.
Ouais, donc 6 points pour l'Espagne, 4 points pour la Croatie, 2e, 3e la République tchèque, 1 point et 4e la Turquie, 0 point. Donc, eh bien, le 21, ça sera mardi à 21h, il y aura Croatie-Espagne, c'est un beau match, hein,
sur
le terrain. Et puis République tchèque, Turquie, là, on joue ni plus ni moins la qualification. Arnaud, Croatie-Turquie.
Alors pour moi, sur le week-end dernier, le début de semaine dernière, c'était le plus beau match de l'Euro. Après, on a vu également que dans les tribunes, c'était très bon enfant, contrairement à ce qu'on pouvait annoncer. Aujourd'hui, les Croates sont peut-être en difficulté avec la blessure de Luka Modric et également les Tchèques avec le forfait définitif de Tomáš Rosický. À voir si ça va pas empiéter sur le niveau de jeu de ces deux équipes.
Ouais, et puis c'est des équipes inconstantes, les équipes de l'Est. Le problème, c'est ça. Elles sont pas capables de faire la prestation d'un match à un autre, ça peut. Voilà.
Vous parlez de beaux matchs, mais moi j'ai vu un match Italie-Belgique.
Ah oui, mais on va en parler. On va en parler. On va en parler. Oui. Bon, intensité. L'Espagne a fait un super match, mais bon,
oui,
c'est vrai que la Turquie en face.
Ouais. Honnêtement, la Turquie. Absolument. On demande un petit peu ce qu'ils font là.
Justement, on y arrive donc au groupe E à l'Italie avec donc l'Irlande et la Suède. On y était avec Olivier, qu'on fait match un partout. Match équilibré. Chacun a eu sa mi-temps. Hein.
Ouais, chacun a eu sa mi-temps. Non, c'était un bon petit match. Puis même dans les tribunes, c'était très convivial.
Un match aussi équilibré dans les tribunes. Hein.
Non, ça se va aller entre Suédois et Irlandais. Et comme a dit tout à l'heure Arnaud, effectivement, au niveau des Irlandais, c'est vrai qu'au niveau ambiance, ils savent.
Tiens, on a croisé Pascal Gentil, deux fois médaillé de bronze, donc, aux Jeux Olympiques. On a eu l'occasion de converser un peu avec lui, hein, Olivier.
Ah ouais, très gentil.
Très gentil. Il était content d'être là. Donc, pour le Stade de France. L'Italie, qui a battu, la Belgique 2-0. L'Italie qui a rebattu la Suède 1-0. Et donc, nette victoire hier de la Belgique devant l'Irlande 3-0. Oui. Ça fait que l'Italie est en tête avec 6 points qualifiés comme l'équipe de France, hein. Oui. Deuxième, la Belgique 3 points. Troisième, la Suède et l'Irlande avec 1 point. Italie, donc Irlande et Suède, Belgique, ce sera le 22 juin à 21h.
c'est vrai que collectivement et tactiquement, ça a été une véritable leçon de la part des Italiens. Impressionnant.
Oui, on les disait
collectivement et tactiquement.
On les disait vieillissant, ouais. Mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que le ballon circulait et puis que ils étaient solidaires parce que quand un Italien perd le ballon, les copains sont là pour le suppléer.
C'est vrai qu'ils ont fait une belle démonstration.
Et c'est vrai que c'est un super collectif et Antonio Conte a réussi à faire un petit peu le.
Ouais. C'était un peu moins brillant contre les Suédois.
Mais enfin, bon. je trouve que contre la Belgique, c'était un superbe match. Un des meilleurs matchs que j'ai vu jusqu'à maintenant.
Tactiquement et collectivement, c'est belle.
Puis c'est comme les Allemands, de toute façon, ils sont toujours présents. Les Italiens, voilà.
Oui, alors après, il faut les voir. Bon, c'est vrai que les Belges ont un peu raté leur match. Il faut les voir aussi face à une opposition peut-être un peu plus forte sur l'instant.
Par contre, ils sont améliorés un petit peu. Le côté que j'aime pas, c'est quand ils gagnent, qu'ils essayent de gagner un peu de temps. Ça, c'est pas
oui,
bon.
Oui, mais c'est
l'italienne, c'est l'italienne, ils le font tous, mais les italiens sont maîtres en matière, ils le font comme leur tempérament
d'ailleurs,
comme les Portugais
d'ailleurs, des confrères
un peu moins les Portugais mais aussi pareil un petit peu
d'ailleurs avec beaucoup de confrères en parlant,
sauf que les Portugais gagnent pas, c'est ça la différence avec les Italiens.
Avec beaucoup de confrères en parlant, c'était ce qu'on disait, ils ont gagné à l'italienne, c'est vrai. En plus,
la force de ces équipes italiennes, espagnoles, voire même allemandes, c'est qu'ils ont un championnat ils ont un championnat fort, puisqu'on les retrouve.
Oui.
Et je vois l'ossature de l'Italie, c'est la Juve.
Oui. Et à chaque fois qu'il y a une belle ossature de la Juve, il y a une belle équipe italienne.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une homogénéité, une complémentarité, et surtout une solidarité entre les joueurs, on le ressent. Je pense pas que l'Italie va gagner là, parce qu'ils sont partis tellement fort, j'ai le sentiment qu'ils iront pas au bout.
Oui, si tombe sur une bonne Allemagne, je suis pas sûr qu'ils passent, mais enfin bon.
Surtout que ça va prendre l'Allemagne en quart de finale.
Je vais dire un truc qui va peut-être pas faire plaisir à Juliette, c'est que en France on peut pas mettre l'ossature du PSG puisqu'il y a pas beaucoup de Français.
C'est partout pareil.
Dans
les clubs anglais aussi.
Championnat, c'est pas ça. L'Italie,
sauf en Espagne et l'Allemagne.
Il y a 4 joueurs italiens qui viennent de Cesena. Il y a 2 ans qui jouent à Cesena, quoi, qui sont dans l'équipe. Moi, je les connaissais pas. Tu vois, les mecs, ils sont peut-être pas au-dessus des autres équipes, mais...
C'est dans la mentalité, dans la culture italienne. Et puis, c'est ça qui fait la différence avec nous.
Qu'est-ce que serait l'Italie si elle avait un vrai avant-centre? Parce que Pelé, qui, je trouve qu'il n'a rien, qu'il n'a pas sa place en équipe d'Italie...
Elle jouerait peut-être pas comme ça.
Intrinsèquement, individuellement chaque jour, il n'y en a pas un qui a sa place en équipe d'Italie.
La défense est quand même très impressionnante.
Oui, mais Chiellini, tout ça, c'est des mecs qu'on connaît depuis 50 ans. Mais ce que je veux dire, intrinsèquement, si on prend individuellement les joueurs de l'avant, déjà, moi je les connais pas, très honnêtement. Parce que je suis plus trop le foot comme avant, mais c'est le collectif qui fait la différence. Les mecs, ils se sont sortis, ils ont inséré la Belgique, ils sont allés marquer des buts extraordinaires. Dernier but, c'est Pelé, quoi, je crois qu'il marque, non? Le deuxième but de l'équipe d'Italie, c'est Pelé qui le met. Le mec, il se pose pas de questions, Boum! Mais après, est-ce qu'ils ont au bout? J'ai des doutes.
Oui, je suis un peu d'accord.
Par contre, la Belgique, moi, je vais mettre une pièce
dessus. Alors, justement, Boris, parce qu'ils ont été décevants, c'est aussi parce que l'Italie a été bonne.
Mais par contre, moi, j'ai le souvenir, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud, souvent, l'équipe qui perd le premier match ou qui déjoue le premier match va au bout.
Oui, c'est arrivé. L'Espagne en 2010.
Contre le Cameroun en Coupe du Monde, il y a très longtemps, ils perdent 1-0. Et ils ont gagné la Coupe du Monde. Il y a eu d'autres exemples là. Et la Belgique me fait penser un peu à ça. Je sais pas pourquoi.
Ouais. Donc on va assister à une finale France-Belgique alors.
Pourquoi pas?
Ouais. Bon, Lukaku, c'était un peu mieux hier.
Ouais, mais Lukaku, attention, on lui saute dessus parce qu'il rate un match, mais faut le regarder dans le championnat où il joue. C'est un bon joueur. Et puis quand il n'y a pas Lukaku, il y a Benteke. Et quand il n'y a pas Benteke, il y en a un autre. Il y a comment celui qui joue à Marseille?
Michy.
Voilà. Ils ont, par poste, ils ont 2 ou 3 possibilités. C'est fort.
Eden Hazard, il est à l'image de Chelsea. Il n'a rien fait, il est transparent.
C'est match.
Pour notre plus grand plaisir, avec leur défaite, les Belges passent dans la partie haute du tableau. On va donc éviter un Allemagne-Belgique en quart de finale. Alors je pense que c'est peut-être mieux pour le spectacle de les retrouver plus tard.
Voilà, on va saluer Francis. Dans 15 jours, mon ami Francis. Voilà, merci. Voilà. Donc effectivement, pour toi, Boris, ça peut être la surprise. Cette équipe belge peut déjouer les pronostics.
Il manque un peu d'expérience au niveau international avec ses joueurs, mais ils jouent tous dans les plus grandes équipes d'Europe. On arrive à voir des joueurs comme De Bruyne et autres qui sont presque pas les meilleurs dans leur équipe, dans l'équipe nationale, mais qui sont dans leur club les meilleurs.
Le bourreau du PSG.
Moi, je pense honnêtement qu'ils sont pris une claque au premier match, ça leur est salutaire. et qu'aujourd'hui on va voir le vrai visage de la Belgique, et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de déchets jusqu'à la fin.
Bon, bah, c'est bien, on en reparlera. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Allez, le groupe F, qui va concerner plus particulièrement José, victoire de la Hongrie, qui a battu l'Autriche de 2-0. Oui. Portugal, Islande, un partout. Islande, Hongrie, un partout aussi. Et Portugal, Autriche, 0-0. Beaucoup de matchs nuls. Oui. Donc la Hongrie, 4 points en tête devant l'Islande et le Portugal, 2 points. 4ème Autriche, 1 point. On aura Hongrie, Portugal et Islande, Autriche le 22 le juin décisif, à 18h. Oui. Oui. Donc les matchs décisifs pour pourquoi le Portugal. Ce manque d'inefficacité des Portugais, José?
Bah, je sais
parce
pas.
Que ils ça, sont... Ça joue bien quand même.
Ça joue bien, mais bon, comme lors du match contre l'Islande, ça bétonnait quand même derrière. Il y a eu pratiquement, comme on dit les Portugais, comme a dit Ronaldo, d'ailleurs, il aurait pas dû le dire, que les Islandais avaient mis le bus dans les buts. Mais bon, après, c'est à eux de trouver des solutions. Pour c'est pas une raison de.
C'est pas évident.
Ouais, alors, oui, je sais que c'est pas évident, mais bon, le gars Ronaldo, peut-être qu'il joue avec la pression. Je sais pas moi. Hier, le penalty pratiquement à la fin, le.
Régulièrement.
Bon, après, bon, je vais pas non plus l'accabler, mais c'est vrai que là, lors des matchs avec la sélection, ça n'a rien à voir avec les matchs qu'il fait au Real pendant toute la saison. Mais comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'il est un peu cuit. Et
bon, bah, ça se ressent. Il a pas été transcendant.
Il y a peut-être aussi, parce que hier j'ai écouté l'entraîneur portugais qui disait, grosso modo, hein, je résume, Ronaldo, j'y dis rien, il fait ce qu'il veut, il mène l'équipe. Alors peut-être
disons qu'il a peut-être un peu trop de pression, tout le monde compte sur lui et puis à lui tout seul.
Ou il veut peut-être gérer aussi l'équipe tout seul.
Il peut
voilà,
pas
apparemment,
faire
c'est la star qui arrive dans l'équipe, voilà. On lui dit rien.
Bon, tout le monde voit que lui et puis bon.
Ronaldo qui est censé mener le Portugal tout seul, Zlatan qui doit mener la Suède tout seul. On voit que les deux sont carbonisés, ils ne font absolument rien. Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser là-dessus?
C'est pas pour être chauvin, mais bon, le Portugal est quand même un tout petit peu.
Ouais, je pense aussi.
Oui, mais quand même.
Collectivement, il manque pas grand-chose.
Non, je pense qu'ils sont cuits, c'est tout.
Il manque pas grand-chose. Il manque le petit plus. Oui. C'est vrai qu'hier il y a eu 10 occasions. Alors, on n'en met pas une, mais disons que s'il y avait eu par exemple un petit but en première mi-temps, après ça serait débridé. Oui, et je pense que ça aurait fait un gros
José,
score.
Il y a quand même déjà un point important, c'est que le Portugal fait une bonne première mi-temps contre l'Islande, peut-être une des meilleures mi-temps qu'on ait vues.
C'est vrai.
Et après, sur 7 euros, ils prennent un but, ça peut arriver contre le cours du jeu. Et la belle machine huilée, elle se grippe complètement.
Après, c'est dans les têtes quand même. C'est là que on voit qu'il n'y a pas encore la marque des grandes équipes.
Ouais, après,
c'est
une grande équipe, précipitation après. Quand même.
Elle est vieillissante, cette équipe.
Il a intégré quand même un petit peu de jeunes.
Il y a un vrai problème, c'est que. Aujourd'hui, Pépé, Ronaldo, Quaresma, j'en parle
Carvalho,
pas, c'est une caricature.
Carvalho à 37 ou 38 ans.
Ça va pas, quoi. Ça peut pas aller. On peut pas aller au bout d'une compétition. Et encore à l'Euro, ils peuvent peut-être s'en sortir, faire un quart ou une demi.
Mais
après,
ça
va être super compliqué à gérer.
Je sais pas comment. En plus, tout
repose
sur Ronaldo.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Pour se projeter, je crois que si le Portugal finit 3e, c'est l'Espagne en 8e. Et s'ils finissent 2e, c'est la Belgique.
Donc ça fera, quoi qu'il arrive, ça fera un gros choc.
Ça va pas aller loin.
Quoi mais arrive, je crois que le Portugal joue quand même mieux contre des grandes équipes parce que ça joue plus ouvert que contre des équipes qui bétonnent. Et c'est quand il y a une équipe qui bétonne, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et
La France. Hein.
Par contre,
La France, c'est pareil. Depuis tout à l'heure, on trouve des excuses. Vous dites, ah bah tiens, les Portugais, ils sont fatigués. Lui, ils sont cramés et les Français sont mauvais.
Mais
on est tombé contre des équipes qui ont bétonné. Qui nous ont pas laissé.
Oui, d'accord.
Contre les grandes équipes, ils arrivent à se sublimer. Et alors que chose qu'ils font pas contre les petites équipes.
Je pense que ce soir, on va s'éclater avec l'équipe de France. Voilà.
Ça va être ouvert.
Parce que ça va jouer. Les Suisses vont jouer.
Leur intérêt, c'est de marquer un point.
Voilà.
Alors, à partir de là, je sais pas s'ils vont avoir du bon joueur. J'espère. Je crois pas.
Ils ont pas l'habitude de fermer les Suisses. Je pense qu'on va s'éclater.
Mais il faudrait que Deschamps aille faire un petit tour du côté du banc et qu'ils prennent quelques remplaçants pour qu'ils fassent voir qu'ils sont là et pour se motiver et puis pour
c'est ce qu'on appelle les coiffeurs, mais enfin
voilà,
on sait que les entraîneurs disent que maintenant il n'y a plus de remplaçants, il n'y a plus de titulaires, il y a un groupe, il y a un collectif,
c'est ça.
On a vu la différence contre l'Albanie, il n'y avait pas Griezmann en première mi-temps, il n'y avait pas Pogba, ça s'est vu quand même, parce que la deuxième mi-temps on a quand même réagi. À un moment il faut arrêter aussi de dire bah tiens, il faut donner des leçons, on est quand même dans un championnat.
Après il y a beaucoup de mental, parce que les joueurs, tout le monde sait jouer, les joueurs c'est des professionnels, après c'est le mental, t'as le physique,
inconsciemment.
Inconsciemment.
Et quand on a un bon coach qui arrive à leur faire passer,
Ça c'est un signe.
Un peu comme l'Italie, hein, je pense que Conte, il arrive à faire passer le message qu'il veut à ses joueurs, et ils sont solidaires entre eux, et puis ils se défoulent, et on voit qu'ils prennent du plaisir à jouer ensemble. Ils font des efforts tous, alors que c'est pas le cas de la France, c'est pas le cas de certaines équipes.
Et l'équipe de France qui gagne ses matchs au dernier moment, dans la dernière minute.
Si l'effort est fort, l'équipe de France.
On l'a vu la Roumanie,
ça circule pas comme ça peut.
Oui, mais on s'en fout. L'effort, il est fait. Alors tout à l'heure, c'est vrai qu'on mais tout le monde parle de Payet, le collectif il est là, les mecs qui poussent à la fin, les dernières minutes, on voit les Français pousser.
Le premier cas d'occasion, voilà. On se réserve pour les huitièmes, et là, on va voir qui vont enlever le frein à main. Puis que
et comme le dit si souvent Philippe, à la fin, on se souviendra que de celui qui a gagné.
Ça, c'est vrai. Dans 10 ans, on se rappelle que du vainqueur.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais ça fait quand même des années qu'on soupe du jeu, on s'éclate pas, quoi. Et donc, je pense que ça arrive, mais on l'attend avec impatience, parce que les matchs de l'équipe de France depuis 10 ans,
En 98, tout le monde, on s'est éclaté que les véritables beaux matchs, il y a eu des surprises, comme on disait,
tu avais
tout.
Il y a eu 5-1, il y a eu 3-0.
Mais contre des petites équipes, c'était pas.
Non, mais le deuxième tour, c'est laborieux.
Citez-moi les matchs des 10 dernières années où on a vu l'équipe de France, c'est dit, tiens.
Ouais, France-Russie.
Rien depuis 2006.
Au mois de mars.
France-Russie.
Au mois de mars, ouais. Beau match. Beau match.
Mais avant l'ère, des champs, c'est sûr, il y avait rien.
Oui,
avant l'ère des champs, il y avait rien. On avait tous le même constat.
Mais donc, toi, tu trouves que. Alors, je parle pas du collectif qui est meilleur. Tu trouves que les deux matchs qu'on vient de voir, c'est beaucoup plus éclatant que les matchs qu'on a vus sous Blanc ou sous Domenech?
Non, c'est pas ça. Moi, je suis conscient, enfin, c'est ce que je pense. Moi, je partais du principe, je me suis dit, ça va, on a quand même, je pense, des équipes abordables par rapport à d'autres. Qui vont nous permettre de nous roder encore. Que je m'attendais pas à avoir des coups d'éclat. Et en plus, la Roumanie, il fallait pas la sous-estimer. Même l'Albanie, attention les joueurs. Donc, on tombe contre des équipes rugueuses. Et c'est bien d'avoir pris ces équipes-là au début.
Ils nous ont posé des problèmes.
L'Albanie, l'année
dernière.
Donc,
la Roumanie, ils ont fait des attaques. La Roumanie a quand même fait, ils ont failli nous marquer un ou deux buts à un moment. Ça teste, c'est bien, c'est des bons tests.
L'équipe de France, à chaque génération, a eu un très grand joueur. On a eu Platini, on a eu Zidane, et là, on a des très grands joueurs. On n'a pas un qui est au-dessus de tous les autres.
Ils vont éclater.
Donc, il faut attendre 10, 15, 20 ans pour avoir un Zidane ou un Platini. Là, ils sont tous grands. Donc, mais il n'y en a pas un qui est au-dessus de ces grands-là.
Ça veut dire que c'est plus un collectif?
Oui.
Je pense. C'est plus un collectif, plus que certaines individus.
Mais seulement après, quand on a perdu ce grand joueur par équipe, on a fait pendant 15 ans.
Un leader comme ça, de se reposer sur un leader pour pouvoir avancer et pour compter sur lui et dire qu'on est fort.
Un mec qui braille comme Deschamps à son époque.
Voilà.
Faudrait arrêter
au milieu de terrain,
puis un interne,
Et puis à la conclusion, un Zidane, qui tue un match, quoi.
On va envoyer la pub et la musique. Juliette va s'en aller. Juste un petit mot, Juliette, je m'en voudrais quand même sur le Paris Saint-Germain. Laurent Blanc s'en va.
Je ne sais pas, je ne crois pas.
Attention, on ressortira les bandes.
On ressortira les bandes. Je ne crois pas et
j'aimerais
pas.
Alors moi, je vais répondre très rapidement. Je suis désolé, je vais te décevoir, mais c'est plié. L'affaire est pliée. Emery, tout est fait. Le staff est trouvé.
Mais d'où vous teniez ces informations, en fait?
On a mangé avec Laurent Blanc hier soir.
Comme je disais tout à l'heure.
Mais quelle est la différence entre celui de. Et de l'Espagne qui va venir à Paris,
il gagne des coupes d'Europe. Il gagne des coupes d'Europe, c'est tout. On va envoyer la pub.
La différence.
Il gagne des coupes d'Europe.
Il n'y a pas de différence.
On envoie la pub, la musique. On y va.
Voilà.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Amplitude Service, professionnel du service à la personne, vous propose des prestations adaptées à vos besoins. Ménage, repassage, jardinage ou encore bricolage pour faciliter votre quotidien. Vous pourrez non seulement dégager du temps pour vos loisirs et passer plus de temps en famille, mais également bénéficier d'un crédit d'impôt. Amplitude Service décline également une gamme de services dédiés aux professionnels. Vous cherchez à dynamiser votre entreprise ? Amplitude Service dispose des compétences administratives nécessaires, enrichie d'un savoir-faire spécifique au métier du bâtiment. Elle vous accompagne dans la réalisation de vos événements, le suivi de vos projets, le montage de vos dossiers et plus globalement dans la gestion administrative et des moyens généraux de votre entreprise. Plus d'informations, contactez dès maintenant Amplitude Service, 2 rue de Paris à Chevreuse, au 06 63 44 05 90. Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 place de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Évry Pontin.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
RVE. RVE.
Sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Voilà, alors pour bien montrer qu'on est sous le signe de l'euro, bah, on va avoir un petit coucou d'une représentante de la République tchèque.
Bonjour la France.
Voilà, bravo, c'est bravo, bien, bravo. C'est très bien. Voilà, Arnaud, vite, pour terminer, quelques stats sur le début de cet euro de foot.
Bon, quelques stats, ça va être compliqué d'en sortir beaucoup, vu que le niveau est extrêmement homogène. Donc pendant 46 buts, à titre de comparaison, la totalité de l'euro 2012, c'était 76 buts. Mm-hmm. Le record avait été atteint en 2004 avec 87 buts. Actuellement, on est à 1,96 buts par match, ce qui est moins qu'en 2012.
Ouais, c'est moyen.
Mais il y a plus de matchs.
Ouais.
Donc enfin, le record de 2004 sera très très logiquement battu.
C'est la moyenne qu'il faut reprendre. Voilà. Bah écoutez, merci d'être venu nous parler donc de cette euro. On fera un petit break la semaine prochaine parce que on aura un champion donc de tennis handisport qui sera avec nous, hein, Johan Kilyou. On reviendra et on se retrouvera donc pour la suite de l'euro concernant le dimanche 3 juillet et puis le 10 juillet avec une émission spéciale donc de
finale, oui.
Voilà. Oui. Donc Boris a donné la Belgique, Bibi la France et José
l'Espagne.
Hein. Arnaud, c'est difficile pour nous.
La France, mais comme je disais précédemment, c'est le cœur qui parle. Donc la France.
Voilà. Olivier.
Le cœur dit la France, mais allez. Attention aux Allemands quand même.
Voilà, très bien, il y en aura pour tout le monde. Allez, merci à Jean-Pierre d'avoir été aux manettes ce matin. Et rendez-vous la semaine prochaine. Et vive l'euro, et vive nos bleus. Allez, yes. Bon dimanche à tous et à tous.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. Vivez votre région.